Notre Dieu, nous te remercions pour cette soirée et te prions que ta parole fasse du bien à nos cœurs, que nous puissions nous identifier à elle, comme Jésus s'était identifié à cette parole qu'il était envoyé pour guérir, pour sauver, et bien que nous puissions nous identifier à la parole qui nous concerne en notre temps. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, je te prie pour toute personne qui écoute ce message et qui est dans la souffrance, afin que tu le bénisses, que tu le relèves, que tu le soutiennes. Je te prie pour Michou qui n'est pas très bien ce soir, veuille la fortifier, mon Dieu, que demain tout cela ne soit plus qu'un mauvais souvenir et qu'elle soit bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. C'est encore un peu les vacances. Ce soir, je voudrais qu'on lise Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7. Il faut vous accrocher un peu ce soir pour écouter ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas simple. Mais je vais essayer d'être le plus simple possible. Donc, Paul écrit là à des gens qui sont des chrétiens. Et il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans le péché, on est considéré comme mort par Dieu, c'est-à-dire inexistant. Donc on était morts, séparés de Dieu à cause de nos péchés et nos offenses. Vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est l'ennemi, le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est un mauvais esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et on était du nombre de ces gens-là. Et voilà, on s'est converti, on n'a pas changé de religion, on a abandonné la fausse religion pour prendre ce que Jésus enseigne. Et on a changé de vie pour mettre en pratique ces choses qui sont écrites. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, c'est-à-dire, c'est pas la viande, c'est les convoitises de notre psyché, de notre égoïsme, si vous voulez, de notre ego. Donc nous tous, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre ego, accomplissant les volontés de notre ego et nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire quoi des enfants de colère? Nous étions des produits de la colère, nous produisions de la colère, voilà, c'était un cercle vicieux. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc Dieu nous a fait un cadeau, nous a fait cadeau du pardon, il nous a graciés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. C'est un cadeau. Dieu nous a sauvés, c'est un cadeau. Et quand nous l'avons cru, alors c'est devenu effectif, c'est devenu une réalité. Parce que si vous ne croyez pas, par exemple, supposons que quand je vous dis quelque chose, vous ne me croyez pas, mais vous m'offensez. Et si vous m'offensez, vous n'allez rien recevoir de moi, c'est certain. Si Dieu vous dit, au travers des Écritures, au travers des prophètes, des serviteurs, pasteurs et compagnie, si Dieu vous dit, voilà, je te fais grâce, j'efface tes péchés, mais que vous lui disiez, je ne peux pas croire une chose pareille, ben vous l'insultez en face, et alors là, ben il ne s'occupe plus de vous, puis il vous laisse à votre propre sort, et puis voilà, puis ben vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes des fils de la rébellion, vous ne voulez pas de son amour. Ben, débrouillez-vous et venez pas vous plaindre. En fait, c'est ça que ça veut dire. Il nous a fait grâce, il nous a fait le cadeau du salut, mais maintenant c'est à nous de le prendre si on prend pas. Supposons que je vous offre un cadeau, puis que vous disiez, non, ça va, merci, ben, vous avez pas le cadeau, puis moi je suis offensé. Donc, ça va plus, il y a une relation qui est brisée. Ben, c'est la même chose. Dieu nous fait le cadeau du salut, mais si nous le refusons, ben, nous sommes perdus par notre propre faute. Alors, il dit, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, afin que personne ne se glorifie. Personne ne pourra arriver au ciel en disant, voyez, moi je suis sauvé parce que j'ai donné tant d'argent, parce que j'ai fait du bien, parce que j'ai aidé des petites vieilles à traverser la route, parce que j'ai jamais dit de mensonge, parce que je ne sais pas quoi. Non, c'est par grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est pas à cause de nos mérites qu'on est sauvé. Et nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ est mort à notre place, et maintenant, si nous le croyons, eh bien Dieu fait de nous son ouvrage, c'est-à-dire qu'il nous modèle à l'image de Jésus-Christ. Il nous modèle, ça prend toute la vie. Il est en train de nous arranger pour qu'on soit à l'image, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le message. L'autre jour, je vous parlais de la Sainte Cène, et ce soir, je vais vous parler un peu plus profondément de cette vérité. La vérité, Jésus a dit « Je suis la vérité ». La vérité, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un argument. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il a dit « Je suis la vérité ». Et Jésus-Christ, il est la vérité démontrant par sa vie terrestre qui est Dieu et comment est Dieu. Vous voulez connaître Dieu ? Ben regardez comment Jésus vivait. Écoutez ce qu'il disait. Vous connaîtrez Dieu, vous saurez qui il est. Donc Jésus-Christ est la vérité en cela. La Sainte Cène, c'est un rite mort. Quand nous-mêmes, nous ne sommes pas la démonstration de la vie de Jésus. Jésus, dans son temps, a démontré comment est Dieu, qui est Dieu. Et si nous prenons la Sainte Cène en pensant, voilà, je suis en communion avec Dieu, mais que nous ne démontrons pas par notre vie que nous sommes des enfants de Dieu, eh ben, c'est un rite mort. C'est juste une tradition, c'est juste du rien du tout. Vous pouvez prendre tout le pain que vous voulez, tout le vin que vous voulez, toutes les hosties et tout ce que vous voulez, ça ne changera rien aux yeux de Dieu. C'est mort, de chez mort, de chez mort. Et voilà pourquoi beaucoup de gens se prétendent chrétiens, vont à l'église, prennent la Sainte Cène, se comportent comme des païens et attirent sur Jésus-Christ un jugement terrible. Les gens disent, oh, mais vous voyez, les chrétiens, ben voilà. Voilà comment ils sont. Ah, ils sont bien les chrétiens. Oui, ils donnent un mauvais témoignage. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend la Sainte Cène? Eh bien, mes frères et sœurs, en tout cas pas pour se souvenir de Jésus. Il y en a qui pensent que c'est pour se souvenir de Jésus qu'on prend la Sainte Cène. Jésus est avec nous. Voilà, par exemple, ce soir, notre frère Stéphane est avec nous. Ben, je n'ai pas besoin de me souvenir. Il est là. Je n'ai pas besoin d'avoir un truc pour me souvenir qu'il est là. Il est là. Vous comprenez? Bien, Jésus, il n'y a pas besoin d'avoir un truc, une cérémonie pour souvenir qu'il est là. Il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, cette Sainte Cène qu'on prend, ce n'est pas en souvenir de lui qu'on le fait. Il y a une nuance, il faut comprendre, mes frères et sœurs. Nous qui prenons le pain et le vin, nous devons réellement communier à ses souffrances, à sa mort. Quand on prend le pain et le vin, c'est à ça qu'on communie. Nous aussi, nous devons prendre part à la mort qui a été celle de Jésus-Christ, à ses souffrances. Nous devons nous y associer, prendre notre part de souffrance avec les mêmes attitudes que Jésus a manifestées. Jésus, il n'a pas rouspété, il n'a pas dit « Oh ben non, ben j'en ai marre, c'est trop dur, ah ben alors, mais qu'est-ce qui fait Dieu ?» Hein? Non. Si nous ne comprenons pas que prendre le pain et le vin, c'est démontrer par un symbole, par un acte symbolique, que nous sommes partie prenante dans la nouvelle alliance, que nous acceptons de porter dignement en nous-mêmes les souffrances qui manquent à celles de Jésus-Christ, eh bien, nous ne faisons rien du tout d'extraordinaire que de prendre un peu de pain et un peu de vin. Nous sommes en train de démontrer que nous prenons part à ces souffrances. Nous entrons dans cette alliance. C'est une alliance. Nous ne prenons pas, nous qui prenons le pain et le vin, nous commémorons par ce symbole matériel, le pain et le vin, que nous entrons dans cette alliance. Que nous nous chargeons de notre croix. Jésus a dit, si vous ne chargez pas de votre croix, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Lui, il a porté sa croix et nous avons apporté la nôtre. Nous devons prendre part à des souffrances, à des souffrances, mais d'une manière digne. Beaucoup de gens souffrent dans ce monde d'une façon affreuse. Et malheureusement, je vois beaucoup de chrétiens qui souffrent, mais d'une façon qui n'est pas digne. Ils sont toujours en train de se plaindre. En train de même douter des fois de l'amour de Dieu pour eux. Comment ça se fait? Dieu, il promet qu'il va répondre à mes prières et il ne le fait pas. Pourquoi? Non. Il faut mûrir un peu. Il faut mûrir un peu. Lorsque nous prenons le pain et le vin, nous le prenons en commémoration. Nous nous associons à cette alliance de souffrance. Quand on prend ce pain et le vin, nous commémorons par ce symbole matériel que nous entrons dans l'alliance, c'est-à-dire que nous allons nous charger de notre croix, que nous allons aller faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire guérir les malades, chasser les démons, prêcher Jésus-Christ à tous les pauvres. Rappelez-vous que les pauvres, prêcher aux pauvres, ce n'est pas prêcher forcément aux clochards, prêcher aux pauvres, c'est prêcher à ceux qui ont une pensée réceptive. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux ceux qui se reconnaissent pauvres devant Dieu. Ceux-là, Dieu peut les enrichir. Heureux, ils sont en marche, ils peuvent être heureux. Frères et sœurs, sa mort, c'est notre mort. Sa résurrection, c'est aussi notre résurrection. Paul enseignait ces choses et elles doivent être rétablies dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui avant l'enlèvement de l'épouse. Sinon, ça ne sera pas une épouse qui est prête, ça sera une sale gamine mal élevée, cette épouse, complètement immature. Qui c'est qui veut épouser une fille complètement immature? Jésus veut une épouse ferme, pas une immature. Question. Si je dis qu'est-ce que c'est d'être baptisé d'eau? Qu'est-ce que c'est d'être baptisé en Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit? En général, dans les milieux évangéliques, on est plus ou moins au clair au sujet du baptême d'eau. Pour le baptême dans le Saint-Esprit, on est un petit peu moins au clair, hein, dans les milieux évangéliques, ça se contredit pas mal. Quant au sujet du baptême en Jésus-Christ, alors là, je peux vous avouer, ça fait maintenant, depuis 68 que je suis converti, je n'ai jamais entendu enseigner là-dessus. Jamais. J'ai jamais lu quelque chose à ce sujet. Sans doute qu'il y a des prédicateurs qui l'ont prêché, puis je l'ai raté. Mais quand même, en plus de 40 ans, ça fait quand même drôle, des prédications et des bouquins, croyez-moi, j'en ai lu et j'en ai entendu. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu prêcher là-dessus? Sans doute, il y a des choses qui ont été dites, mais pour ma part, j'ai jamais ni lu ni entendu prêcher là-dessus. Or, c'est un baptême très important, le baptême en Jésus-Christ. Paul l'enseignait comme une évidence. Il disait que nous avons à être baptisés dans la mort de Jésus-Christ. On va lire dans Romains 6, 1, 10. Romains 6, 1, 10. Écoutez bien, mais écoutez, ouvrez bien vos oreilles et votre cœur. Que dirons-nous donc? Est-ce que nous demeurerions dans le péché afin que la grâce abonde? Vous avez des chrétiens tordus déjà à l'époque qui disaient « Ah ben ça glorifie Dieu quand il pardonne nos péchés. Alors allons-y, péchons, plus on va pécher, plus Dieu va être content parce qu'il va pouvoir nous pardonner puis ça va le glorifier. » Vous voyez, il y avait déjà les tordus. J'ai entendu à la radio l'autre jour quelqu'un qui disait ça. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. C'était un tordu encore qui disait qu'il avait compris que plus il péchait, plus la grâce de Dieu se manifestait. Un tordu. Mais il y en avait déjà, il y a 2000 ans. Hein. Il dit, loin de là, Paul, il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Pas baptisés d'eau, baptisés en Jésus-Christ. Quand on est baptisé en Jésus-Christ, c'est dans sa mort qu'on est baptisé. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été baptisés dans sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mais vous n'allez pas pouvoir ressusciter si vous n'êtes pas mort. Si vous n'avez pas été baptisé dans sa mort. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Dans ce texte, il dit que quand Jésus a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui en même temps. Ça fait 2000 ans de ça. Pour nous, ça nous paraît une éternité, 2000 ans. Pour Dieu, 2000 ans, c'est rien. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Il l'a créé pour qu'on puisse se déplacer dedans. Mais pour Dieu, le temps n'existe pas. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est encore aujourd'hui. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Pour Dieu, c'est tout le temps, c'est comme ça. C'est incompréhensible, on ne peut pas le saisir. Mais il faut quand même avoir la foi que pour Dieu, le temps, ça n'a pas la même valeur que nous. Quand Jésus-Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés en même temps. À ses yeux, quand Jésus est mort à la croix, nous sommes morts avec lui en même temps. Qui est mort en même temps avec lui? Ceux dont il est dit que leurs noms ont été inscrits dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Maintenant, depuis que nous nous sommes convertis, nous avons à vivre une vie nouvelle. C'est-à-dire que comme Christ est mort, nous sommes morts en même temps. Et quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités en même temps. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Paul enseignait. Il serait temps un peu de mûrir et de devenir un peu spirituel pour comprendre des profondeurs spirituelles qui font partie de la science des mystères de Dieu dont Paul nous parle dans la lettre aux Corinthiens. Et non pas simplement rester sur le béaba, les petites choses, les petits machins. Et, non, il faut aller plus haut, il faut mûrir, il faut grandir. Parce que si on grandit, on va pouvoir devenir des gens plus responsables et faire des choses plus intéressantes que de poser son derrière dans une église et de dire alléluia puis de prendre du pain et du vin. Franchement. Et puis de faire des bonnes œuvres, franchement. Premièrement, maintenant que nous nous sommes convertis, nous avons à vivre une vie nouvelle parce que nous sommes devenus vivants d'une nouvelle vie, celle de sa résurrection. C'est ce qu'on vient de lire dans Romains chapitre 6. Nous qui sommes en conformité à sa mort, si vous n'êtes pas en conformité à sa mort, vous ne pouvez pas avoir part à cette résurrection. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Êtes-vous mort avec lui? Ou avez-vous juste adhéré à une religion, à un club chrétien, à une de ces institutions politiquement religieuses et financières surtout? Je vais vous demander de faire un petit exercice. Regardez vos mains là. Vous voyez bien vos mains? Bougez-les. Elles sont vivantes? Vous allez me dire oui, elles sont vivantes. Alors Paul dit, ben maintenant regardez-les comme mortes. Paul dit ça. Regardez-les comme mortes. Les morts ne pêchent plus. Et si vos mains sont mortes, elles ne font plus de mal, elles ne pêchent plus. Sont-elles mortes, vos mains? Oui. Si vous croyez que vous êtes mort en même temps que Jésus-Christ, c'est une question de foi. C'est une question d'acceptation, de croire ce que la Bible dit. Point, un point, c'est tout, même si ça me dépasse. Si la Bible le dit, je le crois. Il y a des gens qui ont dit que la Vierge Marie est montée au ciel. Il y a des tas de gens qui le croient, la Bible n'en parle pas. Pourquoi ils croient quelque chose qui n'est pas dans la Bible, alors que ce qui est dans la Bible, ils ne veulent pas le croire? C'est un esprit qui fait ça. Un esprit appelé un esprit de mensonge. Et vous avez des millions de personnes qui marchent là-dedans. Savez-vous depuis quand c'est officiel que la Vierge Marie est montée au ciel? Depuis 62 ans. Oui? C'est officiel depuis 62 ans qu'elle est montée au ciel. Ça vous fait pas un peu réfléchir, ça? Et ils croient ce truc-là. C'est une invention d'une religion fabriquée. Mais croire ce qui est dans la Bible, alors ça, non, ils veulent pas. C'est quand même incroyable. Vos mains sont-elles mortes? Oui, si vous croyez que vous êtes mort en même temps que Jésus-Christ il y a 2000 ans. Si vous croyez que le temps ne peut rien y faire. Si vous avez la foi dans ce que Paul dit. Vos mains sont mortes avec Christ et si elles sont mortes, les morts ne pêchent pas. Elles sont aussi ressuscitées avec lui quand il est ressuscité. La vie qui habite dans vos mains, la vie qui vous anime aujourd'hui, c'est pas la vie qui anime ce monde. On a lu tout à l'heure, il y a un esprit qui agite les gens qui sont les fils de la rébellion. Vous, c'est un autre esprit qui vous anime. C'est l'esprit de la résurrection de Jésus. Vous comprenez ça? Il y a deux esprits. C'est ce que Paul enseigne. On va lire Romains 6, 11, 13. Écoutez bien. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voyez? On va un peu plus loin là, hein? Paul dit que nous avons à obéir à cette règle de doctrine dans laquelle il nous instruit. Vous trouvez ça dans Romains 6, 17. Nous devons obéir à cette règle de doctrine. C'est une doctrine. C'est une règle de doctrine. Mais qui croit ça? Seulement ceux qui sont enseignés de ces choses. Ceux qui ne sont pas enseignés ont une tradition. Ils sont sincèrement dans l'erreur. gentiment, tout ce que vous voulez, mais il faut aller chercher à l'origine ce que Dieu dit. Et à l'origine, c'est la Bible, c'est pas la religion. Il n'y a pas que vos mains qui sont mortes à la croix, tout votre être est mort à la croix. C'est ce que la Bible nous dit, vous êtes mort avec lui. Et vous devez vous regarder maintenant comme mort au péché. Et les morts ne pêchent pas. Si vous regardez vous-même comme mort au péché, le péché se présente à vous, ben non, je ne peux pas t'obéir, je suis mort. Ah ben non, je ne peux pas me laisser, c'est pas possible, je suis mort. Les morts, vous avez déjà vu un mort qui pêche, vous? Non, il n'est pas sollicité même par le péché ne perd pas son temps avec les morts. Croyez cela. Croyez que vous étiez en Jésus-Christ à la croix quand Jésus-Christ est mort. Si vous le croyez, vous croyez donc que vous avez été baptisé en sa mort. Ça veut dire, vous croyez que vous avez été immergé dans sa mort, plongé dans sa mort. Ça, c'est du spirituel. Ça, c'est du spirituel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le spirituel, c'est un truc un peu émotif, émotionnant, un frisson dans le dos, quelque chose qui nous fait frissonner ou battre des paupières. Non, ça n'a rien de spirituel tout ça. Il y avait une chanson pour se moquer des spirites, vous savez. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, c'était les frères Jacques qui chantaient. Ah, on sent une présence. Et puis il y en a un qui chante. Non, c'est le petit bout de la queue du chat qui nous électrise. Ben, beaucoup de chrétiens se laissent électriser par un petit bout de la queue du chat. C'est-à-dire que ça n'est pas du spirituel. Ni bon, ni mauvais, c'est simplement leurs émotions. Dieu ne nous demande pas de marcher par les émotions, il nous demande de marcher spirituellement selon les mystères de sa science à lui, qu'il veut nous transmettre afin que nous sachions comment nous comporter et sur quelle base nous pouvons nous appuyer pour pouvoir vivre une bonne vie. Quand on n'est pas sur une bonne base, mais c'est dangereux, c'est même angoissant, on ne sait pas sur quel pied danser, c'est un peu aléatoire, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Non, mais non, il y a quelque chose de solide, c'est ce qu'il dit, mais encore faut-il connaître ce qu'il dit. Maintenant, étant également ressuscité avec lui, parce que vous êtes mort avec lui, mais vous êtes aussi ressuscité avec lui, imaginez, le jour où la pierre a été roulée par les anges et où il est sorti du tombeau, vous étiez dedans. Vous étiez en lui, vous êtes ressuscité en Christ. Et quand il est monté dans les lieux célestes, vous êtes dans les lieux célestes en Christ. La réalité de votre personne, c'est pas ici bas sur terre. Là, c'est juste l'ombre de la réalité. Mais maintenant, cette ombre, il faut la gérer. On peut pas vivre comme on veut. Il faut que nous démontrions que notre vie est différente. C'est ça qu'il dit. Il est en train de dire. Alors, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Parce que c'est possible que le péché règne dans votre corps mortel. Le diable est un menteur. Il va vous dire, mais regarde, t'as plein de convoitises, t'as plein... Oui, mais je ne fais plus ces choses-là parce que je considère que la vérité, c'est ce que la Bible dit. Donc, je ne pêche plus. Et quand vous êtes en ordre avec la parole de Dieu, Dieu bénit sa parole dans vos cœurs et vous aide, et vous fortifie, et vous garde, et vous protège. Paul dit... Vous étiez esclaves du péché, il y en a qui sont encore, tout en étant chrétiens, mais Jésus, Paul dit, mais il vous a rendu libre par sa mort, qui est votre mort, et par sa résurrection, qui est votre résurrection. Et donc, maintenant, d'esclaves du péché que vous étiez, vous êtes devenus esclaves de la justice. On nous dit, ouais, l'esclave. Oui, mais le mot esclave du temps de Jésus, les esclaves, c'était des ouvriers. Marqué aujourd'hui aussi, les esclaves, c'est des ouvriers. Les ouvriers sont des esclaves. Il n'y a qu'à voir comment on traite les ouvriers de plus en plus. Hein. Donc maintenant, cela signifie ce que Paul dit, c'est que vous êtes devenus des ouvriers de justice, des ouvriers qui font les choses justes. Beaucoup me disent, ah oui, mais un jour, quand on se présentera devant Dieu, il y en a qui diront, j'ai fait des miracles en ton nom, et Jésus dira, arrière de moi, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Qu'est-ce que c'est un ouvrier d'iniquité? C'est quelqu'un qui fait ce qui n'est pas juste. C'est un ouvrier qui n'agit pas dans la justice. Ah bon, c'était pas juste de faire des miracles? Oui, c'est juste. Mais il n'y a pas que ça dans la vie chrétienne. Vous pouvez avoir la foi pour faire des miracles et puis pas la foi du tout pour renoncer au mal parce que vous n'avez pas une assurance basée sur un texte qui vous dit que vous êtes mort en Jésus-Christ et ressuscité en Jésus-Christ, et maintenant, quand il est monté dans le ciel pour s'asseoir dans les lieux célestes, vous êtes monté avec lui, vous êtes déjà assis. Et dans Éphésiens 1, c'est dit qu'en lui, déjà, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pas du flap, flap, flap qui veut rien dire, c'est pas de la poésie, c'est une réalité pour ceux qui y croient. Pour ceux qui y croient pas, c'est de la poésie. Même de la mauvaise poésie. Vous ne pouvez pas être un ouvrier de justice si vous n'êtes pas baptisé dans sa mort. Comprenez-vous ça? La résurrection de Jésus, c'est votre résurrection. Cette résurrection-là, elle vous élève. Et c'est cette résurrection-là qui va vous aider à élever les autres, ceux qui vous entourent, hors de leur léthargie pseudo-spirituelle et de leur croyance aveugle en Dieu. Ils ont une croyance. Chez nous, en Suisse, on dit, c'est la foi du charbonnier. Vous aussi, vous avez cette expression, la foi du charbonnier, c'est-à-dire croire bêtement. Non, je ne veux pas croire bêtement. Je crois sur des bases. Voilà mon livre de science, c'est la parole de Dieu, la Bible. Elle n'est pas en contradiction avec la science, les choses que les hommes et les femmes découvrent aujourd'hui et qu'ils appellent science. Aujourd'hui, ils font tout un plat parce que, n'est-ce pas, on va sur la Lune, on s'amuse à tourner autour de Mars, et puis on rigole parce que les catholiques ont fait des procès autrefois, parce qu'un certain Galilée avait dit que la Terre tournait, qu'elle était ronde et tout, et les scientifiques se moquent des chrétiens en disant « oui, c'est des arriérés ». Oui, exactement, c'était des arriérés, parce que si le pape il avait lu la Bible, il aurait lu que la Terre est ronde. Il aurait lu, mais il ne l'a pas lu, donc il ne pouvait pas savoir. Mais celui qui lit les Écritures, il n'est pas contre la science. Au contraire, il y a même un peu en avance. Évidemment. Cette élévation, mes frères et sœurs, cet esprit de résurrection qui est en vous, cette élévation va jusqu'à la perception des possibilités infinies. C'est pourquoi Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Pas forcément qui croit en Dieu, mais qui croit. Beaucoup de gens doutent en eux-mêmes, ils doutent d'eux-mêmes, ils doutent de tout, ils doutent de tout, puis voilà. Les premiers chrétiens, ils avaient besoin d'être vivifiés comme nous, nous avons besoin d'être vivifiés. Nous sommes des êtres humains, la même chose que l'apôtre Paul était un être humain, la même chose que vous, que moi, la même chose. C'était pas Saint Paul avec une auréole sur la tête qui clignote et puis qui est spécial, qui est... Non, c'était un bonhomme. Il n'y a que Jésus qui est Dieu. D'accord? Alors souvenez-vous, mes frères et sœurs, le repas de Sainte-Cène, c'est le renouvellement de l'Alliance en sa mort. Et nous annonçons que bientôt il revient. Mais c'est un repas lugubre. Je vous ai dit ça l'autre jour. La Sainte-Cène, c'était un repas lugubre. Jésus savait que la nuit même, il allait être arrêté, qu'il allait être crucifié. Il n'était pas en train de chanter « Alléluia !» Non, c'était lugubre. Par contre, il y a un autre dernier repas, parce qu'on parle toujours de la Sainte-Cène comme le dernier repas. C'est faux. Il y a un autre dernier repas, celui que Jésus a pris avec eux aux heures lumineuses du matin sur les bords du lac de Galilée. Est-ce que vous vous en rappelez? Ça, c'était un repas de joie. Les apôtres avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris du tout. Et puis Jésus arrive sur la terre. Ah, où est-ce que vous en êtes? Et tout. Et là, leur tristesse est changée en joie. Celui qu'ils croyaient mort, ils le voient ressuscité, là, sur la rive. Alors, Pierre plonge et il nage, il boit la tasse de temps en temps, il comme fou de joie, il arrive devant son maître. La douleur des disciples s'est changée, comme en repentant, « Seigneur, je t'ai trahi, vraiment j'étais au-dessous de tout. » Son orgueil avait été mis à l'épreuve, et il a vu qu'il n'était vraiment pas capable, ou pas capable de grand-chose, ce pauvre Pierre, dont on a fait, n'est-ce pas, une espèce de demi-dieu. Là, ils ont été convaincus de la stérilité de leurs travaux dans les ténèbres. Ils ont été réveillés par la voix du maître. Hey, « Hé, ça va ?» Alors, ils ont jeté les filets du bon côté. Jésus leur a dit où il fallait les jeter, les filets. Parce qu'ils travaillaient au petit bonnet en la chance. C'est pour ça qu'une fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Alors, ils se sont débarrassés du matériel. Et ils ont changé de méthode. Ils ont abandonné le côté religieux de la chose. Ils se sont Ils ont déterré leur entendement qui était, bon, on dit des fois poussiéreux, mais je crois qu'eux, ils étaient même sous terre. Leur entendement, ils ne comprenaient rien. Ils ont vécu avec Jésus 3 ans et demi, ils ne comprenaient rien à rien. Des fois, ça me console, je me dis merci Seigneur, ils étaient vraiment comme moi. Mais ils ont fait des progrès. Quand ils ont compris que pendant qu'ils ont vu Jésus mort là sur la croix, eux étaient là aussi. Et là, quand ils le voient ressuscité, quand ils ont compris, alors moi, je suis aussi ressuscité. Moi aussi, j'ai la possibilité de vivre une vie nouvelle. Alors, ils sont allés en nouveauté de vie. Et regardez le changement, regardez la transformation. Et ce nouveau matin, c'est ce que nous vivons, nous aussi, mes frères et sœurs. Depuis que nous sommes sortis des églises apostates, c'est un nouveau matin, un nouveau repas que nous prenons ensemble. Et nous nous inclinons devant notre Maître et nous recevons de lui, nous recevons de lui la répartition des richesses qui ont été méprisées par les nations. Toutes ces paroles de Dieu qui sont des trésors, c'est infini. Ça a été méprisé par les nations. Eh bien, Dieu nous les confie, Dieu nous les donne. Gardons-les comme des précieux trésors. Polissons-les, faisons-les briller, offrons-les aux gens afin qu'ils puissent en être enrichis aussi avec un service divin, avec un service plein de dignité et d'amour. Et c'est là seulement que la main de Dieu sera sur nous. Sinon, on s'illusionne et on s'émotionne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie que ce que j'ai dit puisse être inscrit dans les cœurs de chacun. Je sais que c'est un petit peu, comme on dirait dans le monde, métaphysique, un peu spécial, mais bon, ce sont des réalités profondes. Je te demande qu'ils les méditent. Je te demande, Seigneur Jésus, qu'ils prennent le temps de méditer ces choses, d'y réfléchir, de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai par le Saint-Esprit et qu'ils se rendent compte que c'est vrai, que quand tu es mort, nous sommes morts avec toi. Il y a 2000 ans, alors que nous n'étions même pas encore nés, mais devant tes yeux, cela n'a aucune importance. Que quand tu es ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. Et que maintenant, nous sommes sur cette terre, non pas pour vivre comme les gens de ce monde, mais en nouveauté de vie, d'une façon différente, disant non au mal sous toutes ses formes, ayant la puissance pour refuser toute influence mauvaise dans notre vie, qu'elle soit la maladie, qu'elle soit la pauvreté, qu'elle soit le péché. Merci Jésus. Amen. Amen.